Nous sommes de nouveau reconnaissants au Seigneur de ce que nous pouvons être ici. Nous avons aujourd'hui, nous ne sommes pas directement attendus à de la visite, mais nous nous réjouissons de ce que vous soyez venus. Pour la fin de l'année, nous attendons à une maison pleine et une bénédiction totale. Donc, tout va ensemble. La bénédiction va toujours avec une réunion. Sans la bénédiction de Dieu, on n'a pas besoin de réunion. Il a béni et il bénit maintenant et il bénira encore dans le futur. Ça, il a promis ainsi. Et nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons dire les uns aux autres, nous pouvons de tout notre cœur faire confiance à Dieu. Ce qu'il a promis, il le fait certainement. Le ciel et la terre pourront brûler, les collines disparaître, mais celui qui croit constatera que Dieu est véritable. Et c'est sur cela que nous bâtissons, que nous nous soutenons, que nous nous tenons. Alors que je voyais aujourd'hui le frère Kupfer, je pensais au dimanche dernier, je crois que pour la première fois, pendant 3 heures, j'ai prêché. Et ça, c'est trop long. Mais la parole du Seigneur est tellement précieuse. On peut entièrement s'approfondir et s'oublier. C'était Zurich le dimanche dernier, mais je dois un peu me corriger, c'est-à-dire que je n'ai pas prêché seul pendant ces 3 heures. Ce qui m'est resté en mémoire, c'était les versets merveilleux, précieux que nous avons utilisés, que nous avons employés. Là, toute la Bible est précieuse. Chaque parole de Dieu est précieuse. Elle est aussi vraie, mais précieuse en ce que nous avons constaté de quelle manière les prophètes ont parlé et que la parole ensuite qu'ils ont prononcée s'est accomplie. Mais de la même manière aussi, nous avons constaté que dans un verset il a été parlé de la première et de la seconde venue du Seigneur. Et cela presque dans un seul verset, qui ensuite, dans leur accomplissement, vous voyez, sont éloignés de presque 2000 ans. Et on peut simplement dire, c'était pour ceux qui ont dispensé la parole. Dans leur époque, ce n'était pas facile de faire la différence des choses. Leur attente, de ne pas mettre leur attente dans ce qui devait s'accomplir déjà autrefois, alors dans le temps où ça a été prononcé. Et parce qu'ils l'ont fait, et que leur attente, ils l'ont mise déjà dans ce qui allait s'accomplir dans sa seconde venue, ou bien même ce qui était écrit en relation avec sa troisième venue. Alors, ce qui était en relation avec sa première venue, ils l'ont entièrement inaperçu. Ils ne l'ont même, n'ont même pas pu le comprendre, le saisir, le classer bibliquement, parce que ils n'ont pas dispensé justement la parole de Dieu. Et c'est ainsi que je pense. Cela nous a inondé le cœur, et je vais vous lire plusieurs écritures pour savoir de quoi je parle, vous savez. De quoi nous parlons, nous voulons faire de reproches à personne quand nous disons que nous voulons le prouver par les Écritures, tout ce que nous disons. Mais j'ai fait cette remarque, ou bien cette expression, celui qui écoutait les scribes et les pharisiens, il l'écoutait D'une certaine manière, la parole de Dieu, c'est vrai, mais pas la parole de Dieu selon la révélation et les prophéties bibliques pour l'époque. D'autres fois, il a écouté, quand, en les écoutant, ce que Moïse, ce qu'Abraham, ce que David ont dit, mais ceux qui prêchaient ces choses n'étaient pas capables de dire, voilà, et ceci et cela s'accomplit maintenant. La parole que nous lisons s'accomplit maintenant. Et c'est là qu'était le problème. J'ai aussi dit que tous ceux qui écoutaient Jean-Baptiste recevaient l'introduction dans ce que Dieu faisait autrefois. Personne ne peut me dire combien de temps est-ce que Jean a prêché, en tout cas tout un temps, et que ensuite on peut pas dire que cet homme n'a rien dit au peuple de Dieu. Non, un prophète, un homme de Dieu, il n'a même pas besoin de prêcher 20 ans ou bien 30 ans. Il peut en un court temps avoir dit beaucoup de choses. Et vous savez quoi? Ce qui était important de dire pour l'époque, car c'est de ça qu'il s'agit, de lire de Moïse, de lire de les autres, de Moïse. Chacun peut lire, qui a appris à lire, de parler d'Abraham. Chacun peut le faire, qui n'est pas muet. Mais, et frère Rousse, justement, vient de le lire. Et ça, cela, nous l'avons remarqué tous. Qu'est-ce que Moïse devait faire? Quel était son devoir principal? Nous l'avons tous lu. C'est-à-dire, dans Hébreux 3, verset 5. Quant à Moïse, bien qu'il ait été fidèle dans toute sa maison, en tant que serviteur, pour témoigner de ce qui devait être annoncé comme une révélation. Ça, c'est le résumé du tout. De tout. De rendre témoignage de ce qui, ou bien alors pour ce qui devait être annoncé plus tard comme une révélation. Mais qui peut annoncer une révélation? Pour quand même une révélation, seulement celui qui l'a reçue. Et à qui vient ou bien de qui sort la parole du Seigneur et à qui est-ce qu'elle est révélée? Celui qui a été déprimé par Dieu pour cela, comme Jean-Baptiste l'était. Et c'est peut-être raison que sans effort, sans problème, Jean-Baptiste pouvait dans son temps apporter son message, apporter le message et ainsi introduire le Nouveau Testament par ce qu'il l'avait reçu et avait la révélation de la parole de Dieu. Ça, c'est très, très important. Combien existent aujourd'hui qui savent exactement ce que Moïse a dit? Combien de temps on doit aller au sabbat? Et de quelle date à quelle date? Et ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger, etc. Tout ce que Moïse a dit dans la loi, ils le savent tous. Mais ils ne savent pas ce qui, dans tous les sacrifices, dans toutes ces fêtes, dans toute cette prescription, ce qui est contenu et caché comme révélation qui plus tard doit être annoncée comme révélation. Et je crois qu'il devait être annoncé. Et c'est ainsi avec tous les prophètes. Tel que c'était avec tous les prophètes, c'est ainsi que c'est avec toute la parole de Dieu. C'est partout la révélation. La révélation ne peut pas être apprise ou bien enseignée. On doit la recevoir personnellement. Elle doit, par le Saint-Esprit, nous être accordée comme personne. Que pensez-vous? Combien de théologues s'arrêtent au deuxième verset? Et ici, dans Hébreux 3, où il est parlé de Jésus qui était fidèle à celui qu'il avait créé ou bien qu'il avait fait, selon d'autres traductions. Alors ils disent, mais vous voyez, Dieu l'a fait. On peut prendre une parole de Dieu, un mot de, dans la parole de Dieu, mais si on ne joint pas ce mot dans la parole de Dieu avec toutes les autres paroles de Dieu et laisser Dieu lui-même parler, nous parler par, sa, par toute sa parole, alors on peut même avec la parole s'égarer parce qu'on n'a pas la révélation de la parole de Dieu. Combien prennent Colossiens, chapitre 3, verset 14, peut-être là où il est écrit que Jésus est le commencement de la création de Dieu. Et alors, ils vont au, verset, au proverbe 8, au chapitre 8, verset 22, où il est parlé de la sagesse, il est écrit « Dieu t'a créé comme les prémices de son œuvre créatrice. » Et là, ils ont tellement de toiles qui tissent, et à la fin, ils sont eux-mêmes pris dans le filet qu'ils ont tissé parce qu'ils n'ont pas de révélation, ils n'avaient pas de révélation divine. On ne peut pas, avec la compréhension humaine, avec l'entendement humain, comprendre ce que Dieu a révélé par son esprit, entrer dans ce que Dieu a révélé par son esprit, a inspiré par son esprit. Ça ne peut que être compris par la révélation du même cet esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Car l'esprit de Dieu sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu là nous a secouru et qu'il nous a pris dans son école et que nous ne nous asseyons pas au pied d'un Gamaliel pour là-bas étudier la théologie. Je ne sais pas, mais certains de vous des vieux temps se rappellent peut-être des temps anciens de ce moine polonais qui était venu ici parmi nous. Et tout était bien, n'est-ce pas? Il était sorti de l'église, il voulait ici adhérer. Ici, il y a rien à, on n'a pas d'adhérent. Et il s'est heurté à l'enseignement de la, il s'est heurté à la divinité de Jésus-Christ. Et il me disait, il m'appelait frère, il m'a dit frère Franck, j'ai étudié pendant 7 ans. Et pendant cette étude, la chose principale, c'était de mettre en face les différentes personnes de la divinité. Moi, je n'ai pas besoin de 7 ans pour cela. Je n'ai pas besoin de les placer en face l'un de l'autre, ou bien au-dessus, ou bien sous l'autre, ou bien à côté de l'autre, ou bien en face de l'autre. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin seulement d'adorer Dieu en esprit et dans la vérité. Et alors, il se révélera à nous. Il se révèle à nous. Mais nous voyons, comment est-ce que c'est difficile pour les hommes? Comment cela est rendu difficile pour les hommes? Alors il mentionne Matthieu 3, et c'est là que ça commence. Il y en a un qui est dans l'eau, Jésus est dans l'eau, et l'Esprit descend du ciel, vient sur lui, et l'autre encore plus haut et parle du haut des cieux, Dieu. Et déjà, ils ont compris tout et maîtrisent le sujet selon leur entendement humain. Et malgré tout, ils ont rien compris. Comme déjà je le disais, du commencement jusqu'à la fin, on doit dispenser justement, correctement la parole de Dieu et la classer dans l'ordre biblique et comprendre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qui se serait passé si Dieu n'était pas devenu homme tout en restant Dieu? Si ce n'était pas révélé ainsi, il n'aurait jamais pu nous faire entrer et nous faire prendre part à cette nouvelle création. Quand est-ce que le bon plaisir de Dieu se repose sur nous, est sur nous? Quand Dieu voit Christ en nous et qui peut nous dire, tu es mon bien-aimé fils, en qui? En toi, j'ai trouvé mon bon plaisir. Tout était nécessaire pour l'histoire du salut, dans l'histoire du salut, pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. J'aimerais lire de l'Ancien Testament des versets bibliques pour vous montrer comment est-ce que c'était difficile autrefois de reconnaître et de distinguer ce qui s'accomplissait dans l'époque précise. Dans l'époque, par exemple, Zacharie chapitre 9, dans le temps, c'est la parole connue qui est lue le premier Advent dans beaucoup de congrégations et partout. Zacharie 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et sauveur. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Restons ici un moment. Vous pouvez maintenant, ou bien plus tard, lire Matthieu 21 et constater comment est-ce que le Seigneur disait à ses disciples, « Allez, vous trouverez aussi une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laisse, sera allé. » Et cette parole s'est accomplie littéralement. Le Seigneur est entré dans Jérusalem. Et est-ce qu'ils ne furent pas transportés d'allégresse? Tous ont exalté, ont loué, ont tressailli de joie. Ils ont jeté des branches, des palmes sur le chemin et ont crié « Hosanna, Hosanna » à celui qui vient au nom du Seigneur. Mais maintenant, dès aujourd'hui, personne de nous a le droit de condamner les scribes et pharisiens, peut-être seulement parce qu'ils n'ont pas prêté l'oreille à Jean-Baptiste qui avait le message de Dieu de l'heure autrefois. Mais je vais vous lire ici le contexte. Pensez encore à ce qui est écrit dans le verset 9 de Zacharie 9. Maintenant, il est écrit au verset 10, regardez. « Je détruirai les chars de guerre d'Éphraïm et les chevaux de guerre de Jérusalem. Les arcs de guerre seront aussi détruits. Il commandera la paix aux nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. » Exprimé en un seul souffle. Fille de Sion, pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem, vois ton roi vient à toi. Il est juste et sauveur et humble, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Ça, c'est l'annonce. Et ensuite, puis, le verset 10, « Je détruirai les chars de guerre d'Éphraïm. » Maintenant, je vous pose la question. Celui qui ne pouvait pas dispenser correctement, je veux dire, par la conduite de Dieu et par l'inspiration du Saint-Esprit, il n'aurait... Est-ce que il aurait dû obligatoirement s'arrêter au verset 9? Est-ce qu'il n'aurait pas dû aussi avoir le droit de lire aussi le verset 10 et s'attendre à ce que cela s'accomplisse autrefois? Si on juge cela terrestrement, car il est écrit ici. Puis, je détruirai les chars de guerre d'Éphraïm et les chevaux de guerre de Jérusalem. C'est écrit ici. Les arcs de guerre seront aussi détruits. Il commandera la paix aux nations. Ça, c'était l'espérance d'Israël. Que le Seigneur vienne comme, et soit manifesté comme roi puissant et que les Romains disparaissent et que la paix et qu'il établisse la paix. Paix sur la terre et aux nations. C'est même écrit. Il a été même dit par les anges, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et le Seigneur disait, ne pensez pas que je sois venu pour apporter la paix, mais l'épée. Hein? L'un sera contre l'autre, etc. Mais joignez ça ensemble. Là, toute la chorale céleste chante. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et quand cela est arrivé, alors le Seigneur dit, ne pensez pas que je sois venu pour établir la paix, pour apporter la paix. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ou alors l'un ou l'autre, c'est écrit dans la Bible. C'est même écrit, paix à ceux qui sont rapprochés et éloignés, unis en Christ. Vous voyez, ce n'est pas notre entendement qui peut ordonner la parole, classer cela dans l'ordre biblique, mais c'est le Saint-Esprit qui a écrit la parole. Le même Seigneur qui a dit sur le sermon, dans le sermon sur la montagne, vous connaissez tous là, le sermon sur la montagne, sûrement même par cœur. Celui qui dit à son frère, toi insensé, est déjà condamnable du feu de l'enfer. Et le même Seigneur lui dit, toi insensé, encore ce soir, ton âme te sera demandée de telles choses. Je peux vous en montrer plusieurs dans la Bible. Ici et là. Mais il faut comprendre ces choses dans leur contexte et les classer dans l'ordre biblique par la grâce de Dieu. Pour savoir dans quel contexte, où, quand et qu'est-ce qui a sa place et dans quel contexte cela est écrit. Le même Dieu qui de manière majestueuse a dit sur la montagne de Sinaï, tu ne tueras pas. Le même Dieu a dit à Saul, tue tous les hommes et n'épargne personne. Qui veut ordonner ça? Qui veut ordonner cela? Les athéistes se remuent la tête et disent, mais qu'est-ce que Dieu veut de nous? Et à la fin, ils sont eux-mêmes tellement confus qu'ils ne peuvent plus croire. Mais nous pouvons exalter de joie et tressailler de joie en esprit. Nous disons amen à chaque parole et nous disons Dieu a raison dans chaque point, dans chaque parole, dans chaque chapitre. Est-ce que je dois vous dire encore ce point? À l'un du sermon sur la montagne, celui qui dit à son frère, vous avez entendu? Celui qui dit à son frère, toi insensé. Cet homme à qui le Seigneur a dit insensé, c'était pas un frère. C'était un qui a dit, je vais remplir mon grenier et là j'aurai assez pour cette année et pour la prochaine année et rien ne peut m'arriver. Vous remarquez de quoi il s'agissait là? Oh, si nous pouvions apprendre à laisser chaque parole de Dieu avec véracité, voir chaque écriture dans la lumière dans laquelle nous a été léguée. Alors tout est en ordre. Celui qui dit à un frère, toi insensé, alors qu'il le penserait même, ça ira mal pour lui. Mais en un croyant qui ne connaît même pas le Seigneur, qui ne veut pas venir à lui, et qui de toutes les manières est un insensé parce qu'il ne vient pas à Dieu, et même si on lui le dit, c'est seulement pour attirer son attention au danger qui l'attend, parce qu'il serait en fait perdu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà la différence. On doit vraiment voir les choses classées dans leur ordre biblique et revenir à la compréhension claire. Revenons à ce point. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris, et ensuite, puis je détruirai les chars, verset 10, de guerre d'Éphraïm et les chevaux de guerre de Jérusalem, les arcs de guerre seront aussi détruits. Oui. Est-ce que cela s'est accompli autrefois, quand il est rentré à Jérusalem, quand il est venu à Jérusalem? Justement, non. Encore plus tard, il commandera la paix aux nations. À quelle nation il a commandé la paix? Aux nations. Il n'a même pas parlé aux nations autrefois. Il a dit, n'allez pas aux nations. À ses disciples. Moi, je vous envoie seulement aux brebis perdues d'Israël. Mais ici, il est écrit, il commandera la paix aux nations. Pas à Israël, mais aux nations. Et dans ce contexte, nous lisons, et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous le dis, quand le Seigneur reviendra comme roi de paix pour établir le règne de 1000 ans, le millénium, alors cette écriture s'accomplira. Tout cela s'accomplira. Son règne ira jusqu'aux extrémités de la terre et il y aura la paix sur terre, n'est-ce pas? Alors, donc un verset pour autrefois, le verset 9 et l'autre, le verset 10, et même encore aujourd'hui, pas encore accompli. Mais les hommes, le verset 10 n'est pas encore accompli aujourd'hui. Mais vous voyez, mais les gens ne comprennent pas ça. Mais encore, le verset 11, le verset 10, c'était seulement une introduction. Maintenant, le verset 10, 11, le verset 11. pour toi aussi à cause de l'alliance de sang que j'ai conclue avec toi. Je libérerai tes captifs et je les ferai sortir de la fosse sans eau. Vous pouvez le lire dans Éphésiens chapitre 4. À partir de verset 8, il a rendu libres les captifs, les saints de l'Ancien Testament qui attendaient là-bas, il les a fait sortir, selon Matthieu 27, verset 51. Ce qui est écrit ici, au verset 11, c'est accompli. Je libérerai tes captifs. Et je les ferai sortir. Vous pouvez le lire. C'est accompli. Et beaucoup des saints sont sortis avec lui. Et ont apparu à plusieurs dans la sainte ville. C'est écrit. De leur sépulcre, ils sont sortis. Mais entends le verset 10. Entre verset 9 et le verset 10. Entre verset 9 et verset 11. Qui n'avait rien à voir à faire avec la première venue de Christ. Mais qui est en relation seulement avec le règne de 1000 ans. L'établissement du règne de 1000 ans. Est-ce que vous voyez comment est-ce que ça devait être difficile pour les conducteurs religieux d'autrefois, pour les prédicateurs, pour les pasteurs, pour les sacrificateurs de l'époque, les scribes, pour comprendre le contexte de chaque écriture. Ce n'était pas donné à tout le monde. Et ça, je le répète encore une fois, ces choses ont été en fait faciles pour ceux qui avaient écouté le message prophétique de l'heure autrefois. Et je vais vous dire comment cela a commencé, c'est écrit dans Luc, l'évangile de Luc, car les scribes et pharisiens ont rejeté pour leur personne le dessein du salut de Dieu en ne se laissant pas baptiser du baptême de Jean-Baptiste. Donc, ils n'ont même pas fait le premier pas nécessaire pour s'humilier et se courber devant, et s'humilier devant Dieu et se soumettre à ce qui se passait autrefois dans l'histoire du salut. Bien au contraire, ils ont cherché leurs intérêts et ils ont fait leurs propres affaires sans reconnaître l'heure de la visitation divine. Je lis cela de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Une parole connue de nous tous. En fait, cela se réfère maintenant, l'écrivain se réfère à Malachie 3, verset 1. Nous allons tout de suite encore venir à parler de ça. Luc, chapitre 7, verset 27. C'est celui au sujet duquel il est écrit, « Voici que j'envoie devant toi mon messager » qui préparera ton chemin devant toi. Oui, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus petit que lui, est plus grand que lui, pardon, grand que lui. Et tout le peuple qui l'entendait, même les publicains, firent la volonté de Dieu. Et furent baptisés du baptême de Jean, en se laissant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi ont rejeté le conseil de Dieu de salut pour leur personne en ne se faisant pas baptiser par lui. Cela commence avec la soumission sous la volonté de Dieu et par cela, sous la pratique de la volonté de Dieu, en faisant la volonté de Dieu. C'est comme ça que commence l'introduction dans la volonté de Dieu, en ce qu'on soit prêt à la faire. Et celui qui n'est même pas prêt à faire les premiers pas pourra difficilement faire les deuxièmes ou les troisièmes pas dans le dessein du salut. Donc, restons attachés et retenons cela. Ici, dans Zacharie 9, verset 11, je l'ai dit, pour toi aussi à cause de l'alliance de sang que j'ai conclue avec toi. Tout ça que j'ai conclu donc au passé, nous savons très exactement. Ésaïe 53, il fut blessé à cause de nos iniquités. Est-ce que vous pensez que Dieu, encore une fois, versera du sang pour faire une autre alliance. Non, la nouvelle alliance est déjà faite, est déjà traitée. Le sang a déjà coulé. Tous les saints de l'Ancien Testament qui avaient mis leur espérance dans le Messie, dans la foi, n'ont pas été déçus. Les captifs ont été libérés et ils sont sortis et Dieu a donné des dons aux hommes. Cela s'est accompli. Éphésiens 4, verset 8. Mais comme déjà insisté, le verset 10 se réfère à ce qui n'est pas encore accompli, à ce qui va encore arriver. Prenons la parole, par exemple, du prophète Malachie, le chapitre 3, dès le premier verset, Malachie 3, verset 1, le verset 1 est connu de tous. C'est pour cette raison que je lis seulement la dernière partie. Donc oui, donc dans la deuxième ligne ici, le Seigneur que vous cherchez est l'ange de l'alliance que vous désirez ardemment viendra sans faute. Ainsi parle le Seigneur des armées. On a le verset 2. Mais qui peut supporter le jour de sa venue? Et qui subsistera à son apparition? Car il sera comme le feu d'un fondeur et comme la lessive d'un baleinier. Il s'assiera là comme quelqu'un qui fond et purifie l'argent et il purifiera les fils de Lévi et il les épurera comme l'or et comme l'argent, afin qu'ils offrent des sacrifices à l'Éternel dans la justice. Vous voyez? La première partie, ou bien dans le premier verset, le Seigneur lui-même s'est référé dans Matthieu chapitre 11, clairement à cette écriture de Malachie 3 verset 1, au premier verset. Marc, dans son évangile, a fait référence à ce verset de Malachie 3 verset 1. Aussi d'autres l'ont fait, mais la deuxième partie, le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez, ils ne l'ont pas lu. Le troisième non plus. Parce que cela n'était pas encore le temps autrefois dans lequel le feu viendrait pour purifier et épurer. C'était autrefois. Autrefois, ce n'était pas encore le temps pour cela. Ce qui était déterminé pour l'époque d'autrefois s'est accompli. Mais l'autre qui l'autre partie qui a été exprimée dans le même verset, mais qui ne se réfère pas et ne s'est pas accompli dans le temps d'autrefois, est encore aujourd'hui dans le futur, c'est-à-dire le temps où il est parlé de que le Seigneur viendra en tant qu'ange de l'Alliance. Vous voyez, ça va être accompli. Regardez ce que le verset 2 attire à soi. Mais qui peut supporter le jour de sa venue? Regardez, autrefois, ils ont fait ce qu'ils ont voulu avec lui. Et ça, je vous le dis, que quand le Seigneur viendra avec grande puissance et gloire et que toutes les nations de la terre se lamenteront et pleureront, alors là, s'accomplira. Mais qui peut supporter le jour de sa venue et qui subsistera à son apparition? Malachie 3, verset 2. Allons maintenant à la dernière partie dans Malachie. Chapitre 3, en allemand, en français, pardon, c'est le chapitre 4, parce qu'au verset 19, il est parlé de ce jour. Et en français, c'est le chapitre 4, verset 1. Sachez en effet que le jour vient brûlant comme un four, où tous les orgueilleux et tous ceux qui vivent sans loi seront comme du chaume, et où le jour qui vient les consumera. Qui sera brûlé? Par les fils de Lévi. Et ils seront purifiés. Et épurés. Qui sont ceux qui seront brûlés et consumés? Les orgueilleux. Ceux qui vivent sans loi. Les impies. Vous voyez comment tout de nouveau on doit faire attention. À quelle expression a été utilisée? On ne peut pas simplement dire oui, ici le feu tombe et tout ce qui reste c'est de la cendre. Non. On doit prendre la parole de Dieu exactement et lire exactement les mots qui sont utilisés et respecter le contexte. Et quand encore on a la grâce d'être conduit par le Saint-Esprit pour voir où est-ce que les choses ont leur place et quand est-ce qu'elles vont s'accomplir, alors nous devrions vraiment être heureux de le voir, de le comprendre et donner à notre Dieu la gloire et l'honneur car il nous a révélé sa parole. Nous lisons dans les derniers versets de l'Ancien Testament au chapitre 4 en français, du prophète Malachie, verset 5. Sachez bien, je vous envoie Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, et il fera retourner le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. Nous avons déjà entendu et déjà traité ce sujet. Comment est-ce que l'ange qui a fait l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, comment est-ce que, de manière minutieuse et avec soin et exact, il a seulement mentionné la première partie de ce verset et pas la deuxième? Quelqu'un dirait, mais est-ce que les anges connaissent aussi la parole de Dieu? Mais je le crois. Les anges connaissent la parole de Dieu. Est-ce que vous ne pensez pas? Quoi? S'il vous plaît. Là, ça nous dépasse, hein. Moi aussi, ça me dépasse. Non. Non, pas besoin de dépasser. Chacun qui est avec Dieu, qui est dans la présence de Dieu, qui est en Dieu et qui est de Dieu, il connaît la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Les anges n'ont jamais été perdus. C'est peut-être la raison qu'ils ne savent pas ce que c'est que le salut, être sauvé. Mais je vous lis ici de l'évangile de Luc pour que vous puissiez savoir que cela est écrit ainsi. Et seulement la moitié du verset a été mentionné par l'ange. Luc chapitre 1, à partir du verset 17. Luc chapitre 1, verset 17. Peut-être aussi le verset 16, et il est si beau et vrai. Il ramènera au Seigneur leur Dieu un grand nombre de fils d'Israël. Alléluia. Pas à lui-même, pas à une congrégation, pas à un mouvement de réveil, pas dans un monde mouvementé, charismatique, non. Mais il ramènera au Seigneur, leur Dieu, un grand nombre de fils d'Israël. Et c'est lui qui le précédera dans l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les désobéissants à l'esprit des justes afin de rassembler un peuple bien préparé pour le Seigneur. La deuxième partie ici n'est pas écrite de Malachie 4, verset 5, seulement la première partie. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants, la deuxième partie, pour faire retourner, pour ramener le cœur des enfants aux pères, manque ici. Ne croyez pas que les anges ont un problème de mémoire. Non, tout à sa place. Tout à son temps. Autrefois, il s'agissait de ce que la première partie de Malachie 4, verset 5 s'accomplisse, pour ramener le cœur des pères, le cœur des croyants de l'Ancien Testament à la Nouvelle Alliance, aux enfants qui sont venus à la foi, qui devraient naître comme la rosée apparaît le matin, comme dans Jean chapitre 1, tous ceux qui l'ont reçu, ils lui ont donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croient en son nom et qui sont nés de Dieu. Une distinction claire de ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament et pas seulement une distinction, un discernement, mais la répartition pour l'Église, parmi le peuple de Dieu, pour montrer où, quoi, à sa place. Et nous pourrions lire tout un nombre de versets bibliques pour vous montrer comme c'était difficile dans le temps d'autrefois d'ordonner les choses de soi-même, de classer les choses bibliquement. Aujourd'hui, aussi, nous savons que ça ne va pas de nous-mêmes. Ce n'est pas possible de notre propre chef, non. Mais aujourd'hui, nous avons le grand avantage que par révélation, nous pouvons voir ce qui s'est déjà accompli. Et ensuite, par révélation, reconnaître que ce qui reste va s'accomplir. Et c'est ce que nous attendons. La première partie est derrière nous, donc la deuxième partie va s'accomplir aussi exactement tel que la première partie s'est accomplie. Donc nous voulons ne pas en vouloir et juger les gens d'autrefois qui n'ont pas reconnu cela, car beaucoup qui vivent dans ce temps ne reconnaissent pas non plus ce que le Seigneur fait maintenant, aujourd'hui. Celui qui lit les Écritures doit comprendre, doit pouvoir comprendre et regarder, voir dans le Nouveau Testament que cela s'est accompli, donc le reste doit encore s'accomplir. Par cela, nous pouvons nous attendre à son accomplissement aussi. Comme je le disais déjà, il y a tout un nombre de versets bibliques. Je me suis un peu donné l'effort de chercher ces versets et cela m'a touché le cœur, m'a saisi. Cela m'a saisi puissamment. J'ai reconnu que ce n'est pas chacun, ce n'est pas tout le monde qui devrait commencer à enseigner et vouloir dispenser la parole, et encore moins avec une expérience d'un séminaire dit biblique. Mais ceux qui sont dans l'école du royaume de Dieu, qui ont écouté, qui se sont ensuite laissés baptiser, et par cela, devant Dieu, se sont soumis, humiliés et ont fait la volonté de Dieu, qu'ensuite ils n'avaient pas de difficulté à se laisser baptiser bibliquement, après s'être soi-même laissé classer bibliquement, pour pouvoir ensuite pouvoir classer bibliquement ce qui s'est accompli. Car il n'y avait pas seulement, des versets où la première, la deuxième et la troisième venue ont été liées ensemble, prononcées ensemble, dans un seul verset presque. Mais il y a aussi Ésaïe 53 qui est encore écrit aujourd'hui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer son regard. Tout le chapitre, tout ce qui s'est déroulé, tout ce qui devait s'accomplir autrefois avec notre Seigneur est écrit là dans Ésaïe 53. Ici, laissez-moi dire cela et relever cela clairement. Celui qui du temps de la visitation divine de grâce, quand l'histoire du salut est exécutée sur cette terre, est accomplie et a lieu sous nos yeux, celui qui a la grâce de se soumettre à la volonté de Dieu, de se laisser classer dans la volonté de Dieu et de la faire, de la mettre en pratique, il pourra aussi reconnaître tout ce qui va arriver et le classer bibliquement. Celui qui lui-même ne se soumet pas et se laisse pas classer bibliquement. Mais qu'est-ce qu'il veut alors lui-même ordonner bibliquement? Où est-ce qu'il veut commencer et qu'est-ce qu'il veut arrêter? Il ne peut pas non plus lui-même classer quelque chose bibliquement, parce qu'il refuse lui-même de se laisser classer bibliquement. Regardez Jean-Baptiste, il a commencé, mais lui-même était aussi le commencement promis. Voici, je vous envoie mon messager devant ma face. Alors il était là, le messager était là, lui-même. Jean-Baptiste lui-même s'est soumis à la volonté et à la parole de Dieu pour l'heure dans laquelle il vivait. Il s'est soumis lui-même. Et la voix, selon Ésaïe 40, verset 3, était à entendre dans le désert. La voix du Seigneur. Dieu le Seigneur a utilisé une bouche humaine pour crier à son peuple et lui parler. Celui que Dieu utilise et détermine à recevoir sa parole et à la transmettre, il s'est lui-même laissé classer bibliquement, soumis à la volonté de Dieu et au plan de Dieu. Et tous ceux qui écoutent pour écouter doivent aussi se soumettre et se laisser classer bibliquement et faire la volonté de Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire, « Ah, moi, j'ai appris les choses différemment. » Eux, ça, je le vois différemment. Je ne le vois pas comme ça. Non, nous avons à voir de la même manière et d'une manière unique, c'est-à-dire de voir les choses telles que Dieu les voit. Qui étaient les yeux? C'est écrit dans le prophète Ésaïe. Tu as voilé les yeux. Donc, les voyants, les prophètes. Dans le corps, le prophète est comme un œil qui voit les choses. Les prophètes étaient des voyants. Et c'est peut-être raison que Dieu ait à lui seul la reconnaissance. Il n'a pas utilisé des théologiens. Chacun de ces gens-là aurait dit des choses différentes et aucun aurait dit ce que Dieu a dit. Donc Dieu a pris et prend les prophètes pour laisser retentir sa parole par eux, pour clamer sa parole. Et c'est de là que l'histoire du salut commence. Jean était une partie de ce qui devait s'accomplir conformément à la prophétie biblique comme accomplissement en relation avec la première venue de Christ à l'époque d'autrefois qui a été réalisée et accomplie. Je fais encore un pas de plus et cela nous aide. Ne sera pas de savoir ce qui s'est passé autrefois. Pour nous, on peut seulement être aidé et secouru si nous savons ce qui se passe maintenant. Aujourd'hui, avant le grand jour et terrible, avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel, avant l'enlèvement de l'Église épouse de Jésus-Christ, ce qui se passe maintenant, comment est-ce que l'appel à sortir a lieu, la préparation, la soumission sous la volonté de Dieu et d'entrer dans la volonté de Dieu et de la mettre en pratique et ensuite voir la volonté de Dieu être faite par ceux qui se sont soumis à elle. Et ça a commencé avec Jean-Baptiste autrefois. Les reproches qui ont été faits aux scribes, aux pharisiens, c'est ce que nous avons lu, c'est qu'il leur a été dit. Vous avez refusé de vous soumettre à la volonté de Dieu et vous vous êtes pas laissé baptiser bibliquement par l'homme qui comme précurseur avait été envoyé. Vous avez par cela rejeté le destin du salut de Dieu, ce destin dont vous avez prêché toute votre vie. Vous-même, pour vous, vous l'avez rejeté parce que vous n'avez pas suivi le chemin de Dieu qui avait été préparé, mais vous êtes restés et vous avez continué à marcher sur vos propres voies. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû savoir ce qui est écrit dans Ésaïe 55? Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel, etc., etc. Dieu a une voie et cette voie devait être préparée. Ce chemin devait être préparé et l'homme qui devait le faire était là. Il y avait seulement les publicains et les pécheurs, les douaniers qui s'étaient, ceux en tout cas qui s'étaient frappés à la poitrine et qui n'étaient pas venus avec un nez levé, mais qui s'étaient humiliés, qui étaient venus dans l'humilité pour écouter la parole de Dieu. On aurait pu reprendre Jean-Baptiste, extérieurement, ils auraient pu dire, cet homme n'a même pas d'habit de sacrificateur, mais où est-ce qu'il a été établi? Quand est-ce qu'il a été ordonné? Quand est-ce qu'il a été envoyé? Mais l'Écriture dit, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Et ça, c'est la chose merveilleuse. Dans le programme de Dieu, un homme de Dieu, avec le message de Dieu, envoyé de Dieu. Le commencement a été fait ainsi. Tous ceux qui se sont soumis au message divin et qui ont respecté la décision divine et qui ont fait ce qui leur était demandé par le message, ils ont pris part à ce qui s'est passé autrefois. Celui qui, dès le commencement, se laissait identifier et soumettre n'aura pas de difficulté à identifier ensuite ce qui suivra. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? C'est le point. D'abord, ça commence avec ton identification et mon identification et ta soumission et ma soumission dans le domaine qui est maintenant valable pour nous, maintenant. Et nous ne faisons pas de mystère là-dessus. Nous vivons dans un âge prophétique. Et nous devons accepter le fait que des normes différentes doivent être appliquées aujourd'hui. Je ne parle pas de l'enseignement, mais plutôt de ce qui se passe autour de nous comparé à ce qui arrivait il y a 100 ans ou plus. Nous vivons, nous vivons à la fin des temps. Et c'est pour cette raison que tout ce qui est écrit en relation avec la fin des temps, en référence avec la fin des temps, doit s'accomplir. Et nous faisons si mal face à ça. N'est-ce pas? Et nous faisons si mal face à ça. Est-ce que le Seigneur n'a pas annoncé à l'avance que l'amour, par exemple, refroidira dans un grand nombre, dans un plus grand nombre? Il n'a pas dit, n'a-t-il pas dit, ou bien Paul, laissez écrire Paul, car alors les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et hautains, injurieux, désobéissants. On peut lire toutes ces choses. Et si même parfois nous dirions qu'un tel temps n'a jamais existé auparavant, cela est vrai aussi. Mais de la même manière, nous ne pouvons pas, nous ne devrions pas nous arrêter à cela, nous laisser retenir par ce temps. On doit dire, Seigneur, c'est l'écriture qui s'accomplit. Amen. C'est l'écriture qui s'accomplit et aller de l'avant. Si nous voulions nous arrêter à tout cela, alors c'est pas possible. Nous laisser retenir, non, c'est pas possible. Je crois que je l'ai dit ici. Et même si tous les croyants prieraient, Seigneur, qu'il n'y ait plus de guerre sur terre, qu'il n'y ait plus de tremblement de terre, qu'il n'y ait plus de famine dans le tiers monde, nous pourrions, comme croyants tous, jeûner et prier jusqu'au retour du Seigneur. Et ces choses arriveront tout de suite, et malgré tout, parce que la sainte bouche du Seigneur les ont prononcées à l'avance. Il y aura des guerres et des cris de guerre. Nous avons seulement besoin de dire amen à cela. On n'en peut rien d'autre. De la manière, il est écrit que quand ils diront paix et sûreté, oui, ils diront, on peut dire beaucoup de choses, mais que la ruine soudaine vient après leur dire. Oui, la ruine soudaine viendra après leur dire. On ne peut pas s'arrêter à tout cela. Nous voulons une chose. S'il vous plaît, identifiez ces choses aux Écritures et les classer dans l'ordre biblique et ne pas nous égarer à cause de ces choses. Les non-croyants peuvent nous reprocher et dire, mais où est la justice de Dieu? Mais est-ce que les incroyants posent des questions sur Dieu? Les millionnaires et tous ceux qui vont si bien, qui demandent après la justice de Dieu, ils ne posent pas du tout de questions sur Dieu. Ils marchent dans les propres voies. Mais ils veulent, nous qui sommes croyants, ils veulent bien sûr nous embarrasser et poser la question, mais s'il y avait un Dieu juste, mais ça, c'est même pas une question. Il y a un Dieu juste. Mais l'injustice est parmi les hommes. Et c'est ainsi que c'est écrit. Que l'injustice abondera. Ou bien l'iniquité. Il y aura des famines et des temps où les prix vont monter. Nous allons encore bien ici. On peut remercier Dieu. Parfois, c'est difficile quand on voit tout ce qui se passe et tout ce qui est fait partout. Mais beaucoup sont encore dans une situation plus pire. Mais tout cela doit arriver parce que c'est l'accomplissement des Écritures. Dans la parole, pour la première venue et la deuxième venue, tout est écrit. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 48, il est écrit au verset 3. Ésaïe 48, verset 3. Les anciennes prophéties que j'ai annoncées auparavant de ma bouche, elles sont sorties. Et je les ai fait connaître. Soudain, je les ai accomplies, de sorte qu'elles se sont réalisées. Dieu veille sur sa parole. Nous pensons aussi à toutes les interprétations différentes en référence au message de Dieu pour ce temps à la parole révélée aux Saintes Écritures. Et comment est-ce que cela arrive? Et pourquoi est-ce que cela arrive? Ou cela arrive parce que les gens ne peuvent pas positionner la Bible, ou alors ne sont pas déterminés à le faire, ou alors que le tout premier cas entre en considération qu'ils ne se sont pas encore laissés eux-mêmes classés, rangés, positionnés dans ce que Dieu fait maintenant. Et nous commençons très rapidement. Ne pensez pas que je commence maintenant à prêcher. Non, je suis plutôt en train d'aller vers la fin, de terminer, de m'arrêter. Mais nous aussi, nous devons commencer là où les choses ont commencé maintenant à la fin des temps. Avec Frère Branham, cela a commencé Et ça, nous le disons ouvertement et à haute voix. Il n'y a pas une seule personne sur cette terre, dans cette génération, qui a été légitimée comme envoyée par Dieu avec un jour, une commission, un appel, une légitimation et la confirmation de Dieu comme il l'a été. Avec un jour dans lequel il y a eu une commission, un appel, une légitimation, une confirmation. Dieu l'a envoyé. Qu'est-ce qui était avec lui? Il était lui-même identifié, classé, ordonné, positionné à ce que et dans ce que Dieu avait promis dans ses derniers jours. Parce qu'il était intégré dans la parole prophétique et que grâce à lui, la dernière partie a été introduite par Dieu. S'il vous plaît, pas d'un homme, mais par Dieu. Que pouvait faire le pauvre William qui devait tenir sa main sur le pantalon déchiré, sur son pantalon déchiré parce que le trou cousu s'était ouvert. Qu'est-ce que ce pauvre homme pouvait, de ce que subitement la lumière surnaturelle est entrée dans l'endroit dans lequel il était et que l'ange de l'Éternel était, se tenait devant lui et lui a dit, je suis envoyé à toi de la présence de Dieu. Qu'est-ce que frère Branham en pouvait? Oh, vous diriez, mais on doit d'abord pouvoir le croire. Je le crois pour vous tous. Et je vous dis aussi pour quelle raison. Le surnaturel est la nature même de Dieu et l'action de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas eu trois hommes qui sont venus à Abraham? Est-ce que l'ange éternel n'a pas apparu à Moïse? Est-ce que Jacob n'a pas combattu avec l'ange jusqu'au matin, tôt? Comment le Nouveau Testament a commencé? Est-ce que l'ange ne vient pas à Marie? Est-ce que l'ange ne vient pas à Zacharie? Est-ce que l'ange ne vient pas à Paul en prison? Non, là vous devez vous lever plus tôt. Dieu est un Dieu surnaturel. Et si rien de surnaturel se passe, on doit se poser la question, est-ce que Dieu est parmi nous? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est vrai. Dieu a toujours de manière surnaturelle agi. Et qu'est-ce que c'était que la colonne de feu? Simplement un nuage qu'on étend pour qu'il pleuve. C'était la lumière dans laquelle le Seigneur habite. La gloire surnaturelle de Dieu qui l'entoure. Qu'est-ce que c'était le rocher dans le désert? Un rocher quelconque qu'on pourrait avoir déterré du sable, s'il y en avait. Lisez 1 Corinthiens 10. Le rocher duquel Israël a bu était Christ. Oui ou non? C'est écrit, c'est écrit. Et puis pensez à ce à quoi il aurait pu ressembler. Alors pensez à cela un peu. Au même moment, dans la colonne de feu, comme l'éternel Jéhovah et comme rocher Christ. Cachez cela. Classez cela dans l'ordre. Ordonnez cela. Ainsi parle l'éternel à mon Seigneur. Psaume 110. Oh, je pourrais crier de joie. Pour moi, ces choses sont merveilleuses, grandes et puissantes. Ce qui fait grincer les dents des autres, nous les rendent tranchantes. Dieu a des hommes sur terre qui simplement aussi sont une partie de son plan et pour finir de sa parole deviennent un plan, une partie de sa parole. Comme ce, et si cela est vrai, et ça je le crois, et, car Dieu pardonne tous ceux qui doutent, comme celui qui a crié de toutes ses forces, vient en aide à mon incrédulité, parce que ça pourrait arriver que si quelqu'un n'a pas encore lui-même avec Dieu expérimenté quelque chose de surnaturel et ne sait pas ce qui s'est passé dans le temps de la Bible de manière surnaturelle, il aura peut-être des difficultés et dira, ah bon, est-ce que cela est vrai ou bien que cela n'est pas vrai? On doit avoir personnellement vécu certaines choses pour pouvoir un peu les suivre, les comprendre. Mais ce n'est pas tous qui sont, ce n'est pas chacun qui est un prophète, mais ce n'est pas tous qui sont appelés de manière surnaturelle et envoyés de manière surnaturelle. Et là aussi, c'était un peu différent. Alors que Josué devait aller en guerre, qu'est-ce qui s'était passé subitement? Il y avait quelqu'un qui était devant lui, revêtu de la tête aux pieds, avec l'épée nue retirée. Et il lui a demandé, est-ce que tu as des nôtres ou bien de l'ennemi? Et la réponse a été, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Oh, qu'est-ce qui a dû se passer dans Josué? Comme exaltation. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gédéon? Avec Manoah? Manoé. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces hommes? L'un trottait sur l'air de battage et subitement, il y a eu une visite surnaturelle. Oh, loué soit notre Dieu. Une visite céleste. Partout où nous pourrions être, qu'une visite céleste puisse venir. Que le lever, que le soleil levant nous visite d'en haut, comme c'est écrit dans Luc 1, 78, mais 78. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visité d'en haut. Je crois que c'est dans la louange qui a un caractère prophétique de Zacharie autrefois, dans Luc, ce qu'il a prononcé. Donc, Dieu a utilisé cette dernière phase avant le retour de Jésus-Christ. Il l'a introduite comme ça lui-même pour qu'il commence à agir de manière surnaturelle. Et celui qui l'a envoyé, il lui a révélé de quoi il s'agit. Ce qui compte, ce qui est important, sûrement que je l'ai écrit, je l'ai déjà dit. L'ange a vraiment dit, il a cité Jean chapitre 1. L'ange a cité Jean chapitre 4. Chapitre 1, chapitre 4. Il a expliqué maintenant ce qui est important et ce qui va se passer. Et qu'il s'agit du dernier signe, le signe du Messie pour les nations. Et que le ministre, il s'agit du service du Fils de l'homme. Il a expliqué tout ça à Jean, à Frère Branham. Comme Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Il n'y a aucune erreur dans cela. Il n'y a aucune interprétation. Ça, c'est un envoi biblique. Un appel surnaturel. Un mandat divin. C'est ainsi que cela a commencé dans la génération. Et ensuite, la dernière phase, ça a été introduite. Et maintenant, c'est à nous. Que nous aussi, nous puissions nous laisser identifier, ordonner, ranger, classer correctement, nous laisser insérer dans ce que Dieu, comme révélation, a été annoncé. Moïse, comme c'est écrit dans Hébreux 3, devait rendre témoignage de ce qui devait être annoncé comme révélation dans tout ce qui était. Dans les 5 longs livres de Moïse, de Genèse jusqu'à Deutéronome, dans tous ces longs chapitres, je ne sais pas combien de chapitres, ici un peu, et ici un peu, encore un peu là, comme le prophète Ésaïe, au chapitre 28, il dit, ici un peu là, mais pour finir, il est dit, jusqu'à la révélation du Seigneur. Est-ce que les vivants doivent demander aux morts? Non. Allons aux instructions de l'Éternel. Allons aux instructions de l'Éternel. Personne n'a besoin d'aller au ciel pour faire descendre la parole. Et personne n'a besoin de traverser la mer pour nous la ramener. Non, la parole nous a été apportée. La vraie parole du Dieu vivant. Nous sommes, et nous a été annoncé, nous sommes dans la dernière partie de l'histoire du salut. Nous avons été introduits dans la dernière partie de l'histoire du salut. Et maintenant, j'ai seulement qu'une demande. Maintenant, nous n'avons qu'une seule demande. Seigneur, ordonne-nous, classe-nous, range-nous selon ta parole, positionne-nous selon ta parole. Joins-nous ensemble pour que pour finir, puisse se passer ce que tu t'es proposé de faire pour glorifier ton saint nom. Terminons avec cette pensée. Chaque parole de la vérité, bien la dispenser, correctement la dispenser, justement, et l'ordonner, la classer dans l'ordre biblique, c'est-à-dire là où elle a sa place, la positionner, que ce soit dans l'Ancien ou bien dans le Nouveau Testament. Comme c'est ce que Jacques a fait, c'est tellement merveilleux, dans Jacques 15, verset 16, après que Pierre ait parlé. Jacques a dit quelque chose de très merveilleux. Il a positionné ça dans les Écritures. Il dit, bien aimé frère, Pierre a exposé cela, et avec cela, toutes les paroles des prophètes s'accordent. Ça, c'est la musique céleste. Avec ce que Pierre vient de dire, toutes les paroles des prophètes s'accomplissent. S'accordent. Car je reviendrai et je bâtirai le tabernacle de David qui est en ruine. Jacques a bien écouté ce que Pierre a dit. Et ensuite, il a positionné cela, fondé cela bibliquement. Au louer le nom du Seigneur. Tout ce qui est dit doit être posé, placé, basé publiquement. Oh, louez son nom, Seigneur, pour la parole révélée, pour la manne, pour la nourriture céleste. Je suis reconnaissant. J'ai seulement qu'un seul joint, un seul souhait à exprimer concernant cela. Que nous ayons la grâce aussi de faire des expériences surnaturelles avec Dieu. Nous qui avons compris que Dieu, avant la fin directe, a fait un nouveau commencement surnaturel. Que nous aussi, nous ayons la grâce aussi de faire des expériences surnaturelles avec Dieu. Que nous n'aurions pas seulement été des auditeurs et des admirateurs, mais des participants à ce que Dieu fait maintenant. Je crois que cela arrivera ainsi. Nous n'aurons pas tous une visite d'un ange, ou bien nous ne verrons pas tous la colonne de feu, mais nous expérimenterons Dieu tous d'une manière surnaturelle. Sa révélation sera comme du vin nouveau, comme Frère Branham disait, n'est-ce pas, qui stimule. Alors suis le Amen, suis le Alléluia. Alors suis la louange et la gloire à notre Dieu, qui puisse nous aider, qui puisse m'aider, qui puisse nous aider à tous. Nous sommes dépendants de Dieu, entièrement, chaque jour. Et à chaque heure, et nous ne pouvons que dire, Seigneur, aide-nous, que nous puissions nous-mêmes nous soumettre sous ta main puissante et nous laisser classer et ordonner pour que nous puissions ensuite identifier et classer et ordonner tout ce qui va encore arriver. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Levons-nous pour la prière. Croyons-nous tous que le Seigneur dans nos jours, dans cette génération, achève son œuvre. Croyons-nous tous que ceci est un âge prophétique dans lequel nous vivons? Croyons-nous tous que la parole de Dieu en tout et en tout s'accomplit? Croyons-nous qu'il nous a appelés à sortir? Croyons-nous qu'à cela était lié un objectif? Croyons-nous qu'il va se révéler à nous de manière surnaturelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Loué soit Dieu. Nous chantons encore ce chœur. Oh, c'est Jésus. Et ensuite, je demanderai au frère Rousse encore de prier avec nous. Oh oui, c'est Jésus. Oh oui, c'est Jésus, Jésus seul. Oui, j'ai touché le bord de son vêtement et son sang m'a purifié. Son sang m'a lavé pur. Et son sang m'a lavé pur. Ô Père Céleste, de la profondeur de notre cœur, nous te remercions pour ta puissante parole encore ce soir. Tu conduis ton peuple dans la profondeur. Ce que d'autres ne peuvent pas voir, tu nous l'accordes, tu nous le révèles, comme nous devrions être reconnaissants pour tout ce que tu révèles par ta grâce. Aux autres, ça reste caché, mais au tien, tu l'as fait connaître. Oh, quel amour tu as pour nous, Seigneur. Que nous puissions aussi ouvrir largement nos cœurs et t'aimer de la profondeur de nos cœurs, du fond du cœur, et aussi les uns les autres, que nous puissions nous aimer du fond du cœur. Accorde-nous ta grâce. Nous te remercions de ce que tu as béni puissamment encore ce soir, Seigneur. Et tu continueras à bénir. Tu accorderas au-delà de tout ce que nous pourrions attendre et demander. Un jour, tu nous prendras dans la gloire, dans l'enlèvement. Et cette heure sera arrivée. Pour cela, honneur soit à ton merveilleux nom. Amen.